La religion. Après la vente de la ferme à Madame Bordin, M. Geoffroy les invita au repas de cérémonie qu'il donnait une fois par an à des collègues. Le dîner commença vers 2 heures de l'après-midi pour finir à 11 heures du soir. On y but du poiré, on y débita des calembours. L'abbé Pruneau composa séance tenante en acrostiche, M. Bougon fit des tours de cartes, et M. Serpet, jeune vicaire, chanta une petite romance qui frisait la galanterie. Un pareil milieu divertit Bouvard, il fut moins sombre le lendemain. Le curé vint le voir fréquemment, il présentait la religion sous des couleurs gracieuses. Que risque-t-on du reste? Et Bouvard consentit bientôt à s'approcher de la sainte table. Pécuchet, en même temps que lui, participerait au sacrement. Le grand jour arriva. L'église, à cause des premières communions, était pleine de monde. Les bourgeoises et les bourgeoises encombraient leurs bancs, et le menu peuple se tenait debout par derrière ou dans le jubé au-dessus de la porte. Ce qui allait se passer tout à l'heure était inexplicable, songeait Bouvard. Mais la raison ne suffit pas à comprendre certaines choses. De très grands hommes ont admis celle-là. Autant faire comme eux. Et dans une sorte d'engourdissement, il contemplait l'autel, l'encensoir, les flambeaux, la tête un peu vide, car il n'avait rien mangé, et éprouvait une singulière faiblesse. Pécuchet, en méditant la passion de Jésus-Christ, s'excitait à des élans d'amour. Il aurait voulu lui offrir son âme, celle des autres, et les ravissements, les transports, les illuminations des saints, tous les êtres, l'univers entier. Bien qu'il priât avec ferveur, les différentes parties de la messe lui semblèrent un peu longues. Enfin, les petits garçons s'agenouillèrent sur la première marche de l'autel, formant avec leurs habits une bande noire que surmontaient inégalement des chevelures blondes ou brunes. Les petites filles les remplacèrent, ayant sous leur couronne des voiles qui tombaient. De loin, on aurait dit un alignement de nuées blanches au fond du chœur. Puis, ce fut le tour des grandes personnes. La première du côté de l'Évangile était Pécuchet. Mais, trop ému, sans doute il oscillait la tête de droite et de gauche. Le curé eut peine à lui mettre l'hostie dans la bouche et il la reçut en tournant les prunelles. Bouvard, au contraire, ouvrit si largement les mâchoires que sa langue lui pendait sur la lèvre comme un drapeau. En se relevant, il coudoya Madame Bordin. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle souriait, sans savoir pourquoi, il rougit. Après Madame Bordin, communièrent ensemble Mademoiselle de Faverges, la comtesse, leur dame de compagnie, et un monsieur que l'on ne connaissait pas à Chavignoles. Les deux derniers furent Plaquevent et Petit, l'instituteur. Quand, tout à coup, on vit paraître Gorju, il n'avait plus de barbiche. Il regagna sa place, les bras en croix sur la poitrine, d'une manière fort édifiante. Le curé harangua les petits garçons. Qu'ils aient soin plus tard de ne point faire comme Judas qui trahit son Dieu et de conserver toujours leur robe d'innocence. Pécuchet regretta la sienne. Mais on remuait les chaises, les mères avaient hâte d'embrasser leurs enfants. Les paroissiens à la sortie échangèrent des félicitations. Quelques-uns pleuraient. Madame de Faverges, en attendant sa voiture, se tourna vers Bouvard et Pécuchet et présenta son futur gendre, M. le baron de Mahureau, ingénieur. Le comte se plaignait de ne pas les voir. Il serait revenu la semaine prochaine. Notez-le, je vous prie. La calèche était arrivée, les dames du château partirent et la foule se dispersa. Ils trouvèrent dans leur cour un paquet au milieu de l'herbe. Le facteur, comme la maison était close, l'avait jeté par-dessus le mur. Ah, c'était l'ouvrage que Barberoux avait promis, « Examen du christianisme » par Louis Hervieux, ancien élève de l'école normale. Pécuchet le repoussa. Bouvard ne désirait pas le connaître. On lui avait répété que le sacrement le transformerait. Durant plusieurs jours, il guetta des floraisons dans sa conscience. Il était toujours le même, et un étonnement douloureux le saisit. Comment ? La chair de Dieu se mêle à notre chair et elle n'y cause rien. La pensée qui gouverne les mondes n'éclaire pas notre esprit. Le suprême pouvoir nous abandonne à l'impuissance. Monsieur Geoffroy, en le rassurant, lui ordonna le catéchisme de l'abbé Gaume. Au contraire, la dévotion de Pécuchet s'était développée. Il aurait voulu communier sous les deux espèces, chanter des psaumes en se promenant dans le corridor, arrêter les chavignolets pour discuter et les convertir. Au corbeil, il rit au nez, Girbal haussa les épaules, et le capitaine l'appela Tartuffe. On trouvait maintenant qu'ils allaient trop loin. Une excellente habitude, c'est d'envisager les choses comme autant de symboles. Si le tonnerre gronde, figurez-vous le jugement dernier. Devant un ciel sans nuages, pensez au séjour des bienheureux. Dites-vous dans vos promenades que chaque pas vous rapproche de la mort. Pécuchet observa cette méthode. Quand il prenait ses habits, il songeait à l'enveloppe charnelle dont la seconde personne de la Trinité s'est revêtue. Le tic-tac de l'horloge lui rappelait les battements de son cœur, une piqûre d'épingle, les clous de la croix. Mais il eut beau se tenir à genoux pendant des heures et multiplier les jeûnes et se pressurer l'imagination, le détachement de soi-même ne se faisait pas. Impossible d'atteindre à la contemplation parfaite. Il recourut à des auteurs mystiques, sainte Thérèse, Jean de la Croix, Louis de Grenade, saint Poli, et de plus moderne, Monseigneur Chaillot. Au lieu des sublimités qu'il attendait, il ne rencontra que des platitudes, un style très lâche, de froides images et forces comparaisons tirées de la boutique des lapidaires. Il apprit cependant qu'il y a une purgation active et une purgation passive, une vision interne et une vision externe, 4 espèces de raisons, 9 excellences dans l'amour, 6 degrés dans l'humilité, et que la blessure de l'âme ne diffère pas beaucoup du vol spirituel. Des points l'embarrassaient. Puisque la chair est maudite, comment se fait-il que l'on doive remercier Dieu pour le bienfait de l'existence? Quelle mesure garder entre la crainte indispensable au salut et l'espérance qui ne l'est pas moins? Où est le signal de la grâce, etc.? Bon, les réponses de M. Geoffroy étaient simples. Ne vous tourmentez pas. À vouloir tout approfondir, on court sur une pente dangereuse. Le catéchisme de Persévérance Pargaud m'avait tellement dégoûté Bouvard qu'il prit le volume de Louis Hervieux. C'était un sommaire de l'exégèse moderne défendu par le gouvernement. Barberou, comme républicain, l'avait acheté. Il éveilla des doutes dans l'esprit de Bouvard, et d'abord sur le péché originel. Si Dieu a créé l'homme peccable, il ne devait pas le punir. Et le mal est antérieur à la chute, puisqu'il y avait déjà des volcans, des bêtes féroces. Enfin, ce dogme bouleverse mes notions de justice. Que voulez-vous, disait le curé, c'est une de ces vérités dont tout le monde est d'accord, sans qu'on puisse en fournir de preuves. Et nous-mêmes, nous faisons rejaillir sur les enfants les crimes de leur père. Ainsi les mœurs et les lois justifient ce décret de la Providence que l'on retrouve dans la nature. Bouvard hocha la tête. Oh, il doutait aussi de l'enfer. Car tout châtiment doit viser à l'amélioration du coupable, ce qui devient impossible avec une peine éternelle. Et combien l'endure? Songez donc. Tous les anciens, les juifs, les musulmans, les idolâtres, les hérétiques et les enfants morts sans baptême, ces enfants créés par Dieu, et dans quel but? Pour les punir d'une faute qu'ils n'ont pas commise. Telle est l'opinion de saint Augustin, ajoutait le curé, et saint Fulgence s'enveloppe dans la damnation jusqu'au fœtus. L'Église, il est vrai, n'a rien décidé à cet égard. Une remarque pourtant, ce n'est pas Dieu, mais le pécheur qui se damne lui-même. Et l'offense étant infinie, puisque Dieu est infini, la punition doit être infinie. Est-ce tout, monsieur ? Expliquez-moi la Trinité, dit Bouvard, avec plaisir. Prenons une comparaison. Les trois côtés du triangle, ou plutôt notre âme, qui contient être, connaître et vouloir, ce qu'on appelle faculté chez l'homme, est personne en Dieu. Voilà le mystère. Mais les trois côtés du triangle ne sont pas chacun le triangle. Ces trois facultés de l'âme ne sont pas trois âmes, et vos personnes de la Trinité sont trois dieux. Blasphème ! Alors, il n'y a qu'une personne, un dieu, une substance affectée de trois manières. Adorons sans comprendre, dit le curé. Soit, dit Bouvard. Il avait peur de passer pour un impie, d'être mal vu au château. Maintenant, s'il venait trois fois la semaine, vers 5 heures en hiver, et la tasse de thé les réchauffait. Monsieur le comte, par ses allures, rappelait le chic de l'ancienne cour. La comtesse, placide et grasse, montrait sur toute chose un grand discernement. Mademoiselle Yolande, leur fille, était le type de la jeune personne, l'ange des keepsakes, et madame de Noailles, leur dame de compagnie, ressemblait à Pécuchet, ayant son nez pointu. La première fois qu'ils entrèrent dans le salon, elle défendait quelqu'un. « Mais je vous assure qu'il est changé, son cadeau le prouve !» Ce quelqu'un était Gorju. Il venait d'offrir aux futurs époux un prie-dieu gothique. On l'apporta, les armes des deux maisons s'y étalaient en relief de couleur. Monsieur de Mahureau en parut content, et madame de Noailles lui dit « Vous vous souviendrez de mon protégé ?» Ensuite, elle amena deux enfants, un gamin d'une douzaine d'années et sa sœur, qui en avait 10 peut-être. Par les trous de leur guenille, on voyait leurs membres rouges de froid. L'un était chaussé de vieilles pantoufles, l'autre n'avait plus qu'un sabot. Leur front disparaissait sous leur chevelure, et ils regardaient autour d'eux avec des prunelles ardentes comme de jeunes loups effarés. Madame de Noailles conta qu'elle les avait rencontrés le matin sur la grande route. Plaquevent ne pouvait fournir aucun détail. On leur demanda leur nom, Victor, Victorine. Où était leur père ? En prison. Et avant, que faisaient-ils ? Rien. Leur pays ? Saint-Pierre. Mais quel Saint-Pierre ? Les deux petits, pour toute réponse, disaient en reniflant, « C'est pas, c'est pas. » Leur mère était morte et ils mendiaient. Madame de Noailles exposa combien il serait dangereux de les abandonner. Elle attendrit la comtesse, piqua d'honneur le comte, fut soutenue par mademoiselle, s'obstina, réussit. La femme du garde-chasse en prendrait soin. On leur trouverait de l'ouvrage plus tard. Et comme ils ne savaient ni lire ni écrire, madame de Noailles leur donnerait elle-même des leçons afin de les préparer au catéchisme. Quand monsieur Geoffroy venait au château, on allait quérir les deux mioches. Il les interrogeait, puis faisait une conférence où il mettait de la prétention à cause de l'auditoire. Une fois qu'il avait discouru sur les patriarches, Bouvard, en s'en retournant avec lui et Pécuchet, les dénigra fortement. Jacob s'est distingué par des filouteries, David par les meurtres, Salomon par ses débauches. L'abbé lui répondit qu'il fallait voir plus loin. Le sacrifice d'Abraham est la figure de la passion. Jacob, une autre figure du Messie, comme Joseph, comme le serpent d'airain, comme Moïse. « Croyez-vous, dit Bouvard, qu'il est composé le Pentateuque ? Oh, oui, sans doute. Cependant, on y raconte sa mort. Même observation pour Jésus, et quant au juge, l'auteur nous prévient qu'à l'époque dont il fait l'histoire, Israël n'avait pas encore de roi. L'ouvrage fut donc écrit sous les rois. Oh, les prophètes aussi m'étonnent. Il va lire les prophètes maintenant. Pas du tout, mais leur esprit échauffé percevait Jéhovah sous des formes diverses, celles d'un feu, d'une broussaille, d'un vieillard, d'une colombe, et n'était pas certain de la révélation, puisqu'il demandait toujours un signe. Et vous avez découvert ces belles choses dans Spinoza? Ah, ce mot, le curé bondit. L'avez-vous lu? Oh, Dieu m'en garde! Pourtant, monsieur, la science... Monsieur, on n'est pas savant, si l'on n'est pas chrétien. La science lui inspirait des sarcasmes. Fera-t-elle pousser un épi de grain, votre science? Que savons-nous? Disait-il. Mais il savait que le monde a été créé pour nous. Il savait que les archanges sont au-dessus des anges. Il savait que le corps humain ressuscitera tel qu'il était vers la trentaine. Son aplomb sacerdotal agace ses Bouvard, qui par méfiance de Louis Hervieux écrivit à Varlot. Et Pécuchet, mieux informé, demanda à M. Geoffroy des explications sur l'écriture. Les six jours de la Genèse veulent dire six grandes époques. Le rapt des vases précieux faits par les Juifs aux Égyptiens doit s'entendre des richesses intellectuelles, les arts dont ils avaient dérobé le secret. Isaïe ne se dépouilla pas complètement. Nudus, en latin, signifiant « nu jusqu'aux hanches », ainsi Virgile conseille de se mettre nu pour labourer, et cet écrivain n'eut pas donné un précepte contraire à la pudeur. Ézéchiel, dévorant un livre, n'a rien d'extraordinaire, ne dit-on pas dévorer une brochure, un journal? Mais si l'on voit partout des métaphores, que deviendront les faits? L'abbé soutenait cependant qu'ils étaient réels. Oh, cette manière de les entendre parut déloyale à Pécuchet. Il poussa plus loin ses recherches et apporta une note sur les contradictions de la Bible. L'Exode nous apprend que pendant 40 ans, on fit des sacrifices dans le désert. On n'en fit aucun, suivant Amos et Jérémie. Les Paralipomènes et Esdras ne sont point d'accord sur les dénombrements du peuple. Dans le Deutéronome, Moïse voit le Seigneur face à face, et d'après l'Exode, jamais il ne put le voir. Où est alors l'inspiration? « Motif de plus pour l'admettre, » répliquait en souriant M. Geoffroy. « Les imposteurs ont besoin de connivence, les sincères n'y prennent garde. Dans l'embarras, recourons à l'Église, elle est toujours infaillible. De qui relève l'infaillibilité? Les conciles de Bâle et de Constance l'attribuent aux conciles, mais souvent les conciles diffèrent. Témoin ce qui se passa. » Pour Athanase et pour Arius, de Florence et de Latran, la décernent au pape, mais Adrien VI déclare que le pape, comme un autre, peut se tromper. Chicane. Tout cela ne fait rien à la permanence du dogme. L'ouvrage de Louis Hérieux en signale les variations. Le baptême, autrefois, était réservé pour les adultes. L'extrême-onction ne fut un sacrement qu'au IXe siècle. La présence réelle a été décrétée au 8e, le purgatoire reconnu au 15e, et l'Immaculée Conception est d'hier. Et Pécuchet en arriva à ne plus savoir que penser de Jésus. Trois évangiles en font un homme. Dans un passage de Saint Jean, il paraît s'égaler à Dieu. Dans un autre du même, se reconnaître son inférieur. L'abbé ripostait par la lettre du roi Abgar, les actes de Pilate et le témoignage des Sibylles, dont le fond est véritable. Il retrouvait la Vierge dans les Gaules, l'annonce d'un rédempteur en Chine, la Trinité partout, la croix sur le bonnet du grand lama, en Égypte au point des dieux. Et même, il fit voir une gravure représentant un nilomètre, lequel était un phallus, suivant Pécuchet. Monsieur Geoffroy consultait secrètement son ami Pruneau, qui lui cherchait des preuves dans les auteurs. Une lutte d'érudition s'engagea, et fouetté par l'amour-propre, Pécuchet devint transcendant, mythologue. Il comparait la Vierge à Isis, l'Eucharistie au Homa des Perses, Bacchus à Moïse, l'Arche de Noé au vaisseau de Xituras. Ces ressemblances, pour lui, démontraient l'identité des religions. Mais il ne peut y avoir plusieurs religions, puisqu'il n'y a qu'un Dieu. Et quand il était à bout d'arguments, l'homme à la soutaine s'écriait: « Mais c'est un mystère !»